et Autopia. Partout en France, des jeunes rêvent d'autosuffisance, imaginent un monde où l'argent ne serait plus roi, et s'appliquent à mettre leurs idées en pratique. En Saône-et-Loire, Eotopia fait partie de ces lieux d'expérimentation. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. En arrivant au bout d'un chemin de terre, s'offre à nous un monde alternatif. Celui d'Eotopia, une communauté végane fondée par une poignée d'idéalistes venus bâtir le monde de demain. Eotopia fait partie de ces projets collectifs innovants. Nous sommes ici dans un écosystème peuplé d'êtres qui apprennent et expérimentent en harmonie avec la nature. Dans cette émission, La Voix des Oasis, Luna nous raconte son histoire. Elle fait partie des nouveaux habitants du collectif. D'origine belge, Luna a voulu remettre plus de sens dans ses choix et dans sa vie. Le collectif est apparu comme une évidence pour grandir en conscience. Toi, Luna, ton histoire ici avec Eotopia, c'est quoi ? Ta rencontre avec Eotopia et l'envie de pouvoir intégrer un projet comme celui-là.
À la base, moi, j'étais dans une coloc à Bruxelles. Ça faisait un moment que j'avais envie de vivre autrement. Et que j'étais dans une quête de sens dans mon quotidien. Comment vivre, comment faire avec la dimension argent au quotidien d'une manière qui soit éthique et qui contribue à un monde que j'ai envie de voir grandir. Voilà, donc ça c'était les grosses questions. Et puis les rapports de pouvoir dans le groupe et comment vivre une vie harmonieuse en groupe. Donc ça c'était des quêtes qui se présentaient à moi. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Thor, donc, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais donc, qui est mon compagnon, avec qui on vit ici. Et c'est ensemble qu'on s'est lancé du coup dans une recherche qu'on pensait longue et... pleine d'aventures, ce qu'il a été, mais pas si long que ça. On est parti, grosso modo, on a fait du woofing pendant un an.
Ici ou un peu partout en France ?
Un peu partout, ouais. Un peu partout, avec comme objectif plutôt de rester en France. Parce que moi, c'était en Belgique et avant ça, j'étais en Hollande. Et donc, j'avais envie de revenir en France. J'avais envie de contribuer d'une certaine manière à un shift, un changement.
Mais le woofing, c'était déjà dans l'idée de trouver un lieu, ou en tout cas de découvrir cette vie autre qui t'appelait.
Oui, complètement. En fait, l'idée, c'était de, par le biais du woofing, donc se former, mais aussi pouvoir se questionner sur, en fait, c'est quoi concrètement que j'ai envie de vivre. C'est comment est-ce qu'on a envie de vivre en collectif ? Est-ce qu'on est plus dans un mode, mettons, plus éco-village, chacun sa maison ? Et on a des périodes collectives, des moments de célébration. Ou est-ce que, au contraire, on a envie d'être très proches les uns des autres, comme c'est le cas ici, plus sur un mode communautaire, plus soudé au quotidien. Enfin, ça, c'est mes mots, hein, c'est pas des définitions fixes. Mais donc ce woofing nous a permis de faire ça, quoi, de à la fois se confronter à un changement de style de vie radical, hein, parce qu'on est passé, on était tous les deux très citadins et on est passé à un mode de vie rural. Et il y avait ça, et puis donc la dimension, à quel degré on veut notre vie personnelle se voir mêlée à celle d'autres personnes au quotidien, à quel degré d'intimité on veut accéder avec ces autres personnes. Et donc quand on est arrivé ici, on avait un bon feeling, mais en fait comme on s'était vraiment imaginé voyager longtemps, on s'était pas vraiment préparé à l'idée de trouver un lieu aussi rapidement. Donc c'était pas vraiment, ça nous a pas sauté aux yeux. Et puis qu'au bout d'un moment, on a compris, on était un peu long à la détente, qu'on était appréciés et que nos visions collaient bien, en fait. Donc on a fait un travail individuellement. Avec Thor, on a fait un travail, du coup, à suite à notre visite de Sainte-Camel. On a compris à quel point on a été rappelé de l'importance de partager une vision commune. Et donc du coup on a individuellement travaillé sur notre vision, d'abord moi seul, lui seul, et puis ensuite qu'est-ce que notre vision à tous les deux, et donc qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut créer, et donc pour s'assurer que le lieu qu'on intégrerait, on puisse partager, que notre vision à nous s'intègre dans la vision du lieu d'une manière harmonieuse, et que ça soit pas à tant pis, je sacrifie la moitié de mon rêve d'enfant pour coller au rêve d'un projet existant. Et donc l'idée c'était plutôt de voir ce rêve d'enfant contribuer pleinement au projet. Donc c'était le cas ici, ça allait même plus loin que nos attentes, parce que nous on était en recherche aussi de plus de radicalité, je pense, dans nos prise de position politique et puis dans notre manière de vivre, on avait envie d'être inspiré par le collectif pour être plus plus radicaux en fait dans nos dans notre frugalité, dans une décroissance heureuse. On a beaucoup aimé la dimension comment dire presque holistique en fait du projet qui cherche à expérimenter sous tous ses angles à la vie humaine et enfin faire de la recherche dans tous les sens de ce que ça veut dire être humain et les différentes façons d'interagir avec son environnement, avec les autres, et comment ça reflète en fait un modèle potentiellement réplicable en fait pour d'autres, ou bien du moins une source d'inspiration. Donc ça nous a vachement plu, ouais, cette capacité de communiquer.
Et du coup, maintenant, ton implication au quotidien, comment est-ce que tu occupes tes journées ici? Quelle est ta place? Quelle est la part que tu fais? Comment est-ce que tu remplis tes journées?
J'ai beaucoup de mal à pas travailler. Enfin, j'ai du mal à rien faire du tout. Donc la plupart du temps, j'essaie de faire attention de freiner en fait et de pas être dans la course. Parce qu'en fait, quand on est passionné, en tout cas moi, c'est l'effet que ça me fait. J'ai tendance à m'engouffrer dans tous mes projets. Il n'y a pas de séparation entre la maison, l'univers, le cocon familial et puis le lieu de travail. En fait, on vit et on travaille, même si c'est pas vraiment du travail parce qu'on n'a pas de patron, mais disons qu'on a des tâches et des choses à faire qui nous passionnent, mais il n'y a pas de fin à notre journée, quoi. C'est pas j'arrive à 8h, ça se finit à 19h, ah, super. C'est à moi d'être disciplinée, de me dire, bon, faut que je prenne soin de moi. Donc ça, c'est le gros de mon travail ici, c'est de faire attention à mon énergie personnelle et pas à passer à du tout tout collectif, avoir quand même du temps seul. Concrètement, au niveau de l'action, moi, je suis beaucoup au potager. Et ce que j'ai amené au groupe, disons ce que j'ai aidé à approfondir dans le groupe, ça existait déjà, c'était plutôt les connaissances sur les plantes sauvages comestibles. J'ai pas la prétention de savoir beaucoup de choses en plantes médicinales, mais c'est des choses qui m'intéressent, donc avec cette curiosité-là, j'amène des questions là-dessus. Je dirais que je m'oriente plus vers transformation, séchage, des questions comme ça. Voilà.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
Dans l'idée de la transformation, du séchage ou de la culture de plantes médicinales, est-ce qu'il y a aussi une idée d'en générer un modèle économique ou pas du tout? Comment tu te positionnes par rapport à l'aspect économique d'un mode de vie comme celui-là?
Alors, dans le projet, il y a donc une dimension très importante de don. Donc l'idée que, tout comme en permaculture, on conçoit qu'en fait le buisson qui produit des baies ne va pas nous demander une facture à la fin de notre pique-nique où on aura piqué les baies. On a envie de, quelque part, d'expérimenter ce modèle-là. Et ça veut dire que nos activités sur le lieu ne sont pas rémunératrices. Donc ça veut dire que, a priori, pour l'instant, c'est des questions dont on parle encore aujourd'hui, puisqu'on est un système organique vivant, donc ça bouge bien sûr, mais pour l'instant, on n'a pas d'activité rémunératrice sur le lieu. Et le but, c'est plutôt d'avoir à pas gagner trop de sous. Donc si je produis plus de légumes cette année, j'aurai moins de légumes à acheter. Et puis voilà, les visiteurs nous font des dons à la mesure de ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent faire. Et moi, personnellement, bah, du coup, comme beaucoup d'autres, là, j'ai démarré une activité d'indépendante où je travaille un peu comme graphiste, un peu comme facilitatrice. Du coup, je lance ça. Donc ça, c'est l'idée. Et puis, en gros, il y a une association qui a été fondée pour acheter ces terres ici. Et Autopia, c'est seulement un projet, en fait, de cette association. Et donc, cette association, cette année, on a mis des fonds personnels dans l'association aussi pour acheter un autre bâtiment dans le village. Et là, l'idée, c'est d'avoir un projet qui soit plus en phase avec le quotidien des villageois. Donc l'idée, c'est par le biais de ce projet-là, d'avoir plus de liens, plus d'impact, potentiellement aussi plus de dialogue en fait avec nos voisins proches. Parce qu'ici, on est un peu dans notre petit cocon. Et l'idée, là, c'est qu'avec ce projet-là, au contraire, ce soit un lieu de collaboration et de co-création directement avec les villageois. Et donc, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, une sorte de zone neutre. On va bien sûr retrouver des valeurs qui nous sont chères. À Eutopia, on va les retrouver dans ce projet-là aussi. Mais en même temps, il y a énormément de place pour le compromis et la co-création qui fait que, bah, bien sûr, si quelqu'un passe la porte avec un sachet de saucisses du supermarché, on ne dira jamais à cette personne de sortir. Alors qu'ici, ça fait partie des accords qu'on n'amène pas de produits animaux sur le lieu. Sauf les croquettes du chat, c'est vrai. C'est l'exception. C'est l'exception parce qu'on avait trop de souris. Donc on a un chat. Mais enfin bon, bref. Voilà, donc ce lieu-là, il sera potentiellement rémunérant. Ça veut dire que on peut envisager, c'est encore un système associatif, mais on peut s'imaginer avoir avoir une personne travailler à mi-temps et avoir une rémunération, ou bien en tout cas voir au moins l'association autonome financièrement et donc générer une forme d'économie locale quoi par le biais de ce projet. Ouais.
Toi, tu as choisi l'habitat léger. Hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a un bâtiment principal, qui est le bâtiment donc, qui a été acheté par l'association Vers de Terre, je crois, c'est ça?
Oui.
C'est Vers de Terre. Hein.
Oui.
Et donc, vous êtes à plusieurs à vivre dans ce collectif. Donc, en faisant le tour du terrain, on voit différents types d'habitats. Oui. Toi, tu as choisi la yourte.
Oui. Alors, ce n'est pas une yourte auto-construite, c'est une yourte qu'on a achetée de seconde main sur le Bon Coin, qu'on allait démonter et qu'on a ramenée ici. C'était vraiment le truc, c'est qu'on est arrivé avec des économies, donc on avait ce privilège ou cette chance en tout cas de pouvoir débloquer des fonds tout de suite pour acheter, même si c'est un petit budget, ça reste quand même un budget, c'était 7 000 ou 8 000 euros au total. Mais c'était vraiment un bon compromis parce qu'on avait vraiment besoin d'un espace, l'hiver approchait, enfin, c'était la fin de l'été, il fallait qu'on trouve quelque chose et voilà, donc cette opportunité-là nous s'est présentée, donc on est sauté dessus, puis on l'a monté, c'est super.
Donc toi, tu es arrivé ici en couple, dans l'idée d'intégrer un collectif. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attirait dans cette vie du collectif? Tu aurais pu faire le choix que font beaucoup de gens. Enfin, pourquoi vouloir cette vie-là, finalement?
Je pense que c'est aussi un cheminement personnel, donc avec mon histoire de vie et familiale, personnel, où je me suis quand même aperçue en cours de route qu'on n'était pas très fort en termes de communication et d'expression de nos besoins. Donc je crois que c'est déjà une envie de progresser, en fait, un besoin de sentir que je progressais sur mes capacités à être humaine. Donc ça, c'est un truc. Donc c'est très, très efficace, la vie collective, pour, pour vous apprendre tout ça. C'est vraiment chouette. Et en fait, je crois qu'une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'était un échec professionnel où je suis partie avant la fin du diplôme. Je faisais des études de design en Hollande et en fait, j'étais dans une perte de sens totale. J'avais vraiment besoin d'actions concrètes, d'actions directes, même si à ce moment-là, je n'avais pas ce mot-là en bouche. Et donc, voilà, dans un état un peu dépressif, je suis partie de cette école juste avant le diplôme et j'ai suivi une amie pour créer un projet à but social en Belgique. Donc j'ai fait un peu une sorte de mi-chemin, au lieu de revenir en France, je me suis arrêtée en Belgique. Et en fait, ça a très bien débuté, puis ça a très mal terminé, parce qu'il y avait toutes sortes de tensions non résolues dans le groupe, plein de choses qui n'étaient pas forcément conscientisées, qui jouaient en fait sur les dynamiques entre nous. Et voilà, donc in fine, je me suis dit, tiens, en fait, là, il y avait vraiment un terreau super fertile, des personnes compétentes dans le groupe en termes de connaissances concrètes. Il y avait des gens qui étaient bons en communication, en marketing, des IT qui pouvaient programmer toutes sortes de choses. Moi, j'étais là en créatif, directrice artistique. Il y avait vraiment de tout et c'était très, très complet, mais il nous manquait cette capacité à nous auto-gérer, à nous auto-construire. Et je crois que du coup, cet échec-là, après avoir été accueilli en moi et puis digéré quelque part, je me suis aperçue que c'était vraiment une sorte de déclencheur en fait, qui montrait que j'avais vraiment des choses à creuser.
Si tu devais présenter Eutopia à quelqu'un qui ne le connaît pas, Eutopia en quelques mots, c'est quoi?
Eutopia, pour moi, c'est un lieu de vie expérimental, c'est un lieu de vie collectif, donc c'est une famille à la fois, donc c'est déjà des gens qui vivent ensemble, c'est plusieurs familles nucléaires, on va dire, mais ensemble on forme une famille et on fait partie de la grande famille des vivants, quoi. En fait, c'est un peu une bulle hors du temps et de l'espace, c'est un cocon un peu idyllique où on peut venir se reposer et se questionner en fait sur notre place dans le monde. Pour beaucoup de personnes, c'est un, c'est la première fois de leur vie qu'ils n'ont personne qui leur dise quoi faire, quoi. Donc c'est juste déjà faire l'expérience de cette pause-là, de ce silence-là, c'est déjà très fort. Et je pense qu'au quotidien, pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, c'est vraiment un espace d'apprentissage collectif. Et de vivre ensemble, c'est vraiment, je pense, le point le plus fort chez nous. Ouais.
Est-ce qu'il y a aussi le côté transmission, héberger des gens qui viennent de l'ailleurs, organisation de stages? Est-ce qu'il y a aussi cette envie de partage, hein, de partage d'expérience de ce que vous pouvez vivre ici?
On s'est ouverte que très récemment à l'idée d'accueillir des stages, même si ce n'était pas nous les formateurs. Parce qu'on s'est aperçu qu'à partir du moment où il y a un prix fixé sur les choses, ça crée toutes sortes d'attentes et une certaine passivité malgré nous. Hein. Les personnes qui viennent pour bénéficier de ce stage peuvent se sentir un peu en droit en fait, d'attendre certaines choses parce qu'ils payent une certaine somme. Et donc je pense que c'est clairement au cœur du projet, transmission de savoir, partage, avec vraiment l'envie d'expérimenter des façons alternatives de faire cette transmission-là et de les démonétariser. Puis pour aussi, on est aussi, je pense, très empreint d'éducation populaire, en fait, cette idée qu'on est tous porteurs d'un savoir, quel que soit notre niveau d'expérience, notre âge, notre origine, nos capacités, on a tous quelque chose à se transmettre. Et l'idée d'avoir prof-élève, en fait, de base, ça peut créer un clivage qui fait qu'on va diminuer son savoir personnel au profit d'un autre ou d'une autre. Donc tout ce qu'on fait, en général, il y a cette envie de rapprocher en tout cas les rives entre les personnes et pas au contraire de créer plus d'inégalités et de croyances autour de nos inégalités. Parce qu'au fond, quand on reste sur l'humain, en fait, on a tous des choses à s'apporter, on est tous en capacité de générer du savoir.
En arrivant ici, je me faisais la réflexion de « waouh, déjà, il y a pas mal de routes à faire ». Il y a ce côté un peu îlot, un peu isolé, un peu oasis, pour reprendre le terme des colibris. Comment tu vis cet isolement? Donc effectivement, c'est un peu une poche de verdure, un Zion, c'est magnifique. Tu te sens dans quelque chose de très beau et préservé, mais en même temps, est-ce que ça peut pas être pesant aussi, cet isolement, sans vie culturelle ou sans accès facile aux commodités de la ville d'où tu viens?
Je pense que je suis une drôle d'oiseau. Parce qu'à la base, je suis parisienne, mais j'avoue que cet isolement me convient bien. Moi, je le vois un peu comme une sorte de bootcamp à l'effondrement. Parce que j'ai parlé des gens qui se rallient à ces théories-là. Et je me dis qu'en fait, l'autosuffisance, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à... En fait, tu t'ennuies, mais pourquoi tu t'ennuies? Est-ce que tu t'ennuies parce que tu as envie... T'as un besoin pas assouvi, ou est-ce qu'en fait c'est juste une question d'apprendre à s'ouvrir, à contempler, il manque de la musique, mais en fait t'as tous les oiseaux, les insectes qui chantent autour de toi. Il y a une capacité, je pense, il y a vraiment une porte vers une augmentation de notre niveau de conscience dans cet isolement. Après, je dis pas le stimuli du monde extérieur est quand même super sympa de temps en temps, mais ça permet de l'apprécier, quoi. C'est clair qu'on ne sort pas tous les soirs. Et puis en plus, on a cette approche quand même aussi assez particulière. C'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, mais en plus de ne pas consommer des produits animaux, on ne consomme pas de drogue, ni d'alcool, ni de tabac sur le lieu. Le sucre et le café sont tolérés. Mais donc c'est vrai que du coup, on a tendance un peu à oublier que le reste du monde, en général, fonctionne un peu différemment de nous. Donc en fait, ici, on fait des fêtes qui sont en général assez tôt dans la journée pour que les personnes... de petit âge puissent y participer et qui se font en buvant du kéfir. Donc on a quand même une boisson sympathique exceptionnelle à boire, on se déguise, on écoute de la musique pourrie en chantant à tue-tête, c'est comme une fête normale, hein. On met de côté nos goûts pour écouter toutes sortes de classiques. Donc on s'éclate d'une autre manière, et c'est vrai qu'en général... En général, on n'y croit pas trop quand on arrive pour la première fois. On se dit « Ah oui, oh, ça veut dire que ah oui, c'est austère et tout ça. » Et en fait, au final, je trouve ça beaucoup plus joyeux parce que ça vient réveiller une joie qui est authentique, qui n'a pas besoin d'être forcée quelque part. Et moi, je m'éclate bien comme ça. Puis il y a des moments où je me fais une virée. Je vais aller voir des amis, en Bretagne. Et puis je vais partir pendant une semaine et puis je vais revenir ressourcer. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne tous ici. Puis après, il y a les parents aussi, les parents biologiques, parce qu'on est aussi en coparentalité. Enfin, on essaye de s'organiser de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai pas d'enfant, mais je me sens co-responsable, dans la mesure où je le peux, bien sûr, du bien-être de tout le monde, donc des enfants aussi. Et ça veut dire que pour les parents biologiques, c'est vrai que comme ils ont un souci que les enfants soient nourris de leurs expériences, ils se retrouvent à faire quand même pas mal de kilomètres parce qu'il y a une sortie, je sais pas, à la patinoire. Alors du coup, tout le monde, tous les enfants non scolarisés du coin vont à la patinoire. Donc c'est vrai que là, t'emmènes ton enfant à la patinoire et ça veut dire quand même pas mal de voitures, pas mal de transports pour être sûr que la vie soit stimulante. Mais je pense que c'est pour répondre à des peurs, quoi, parce qu'au fond, en fait, on peut se satisfaire de ce qu'on a. Ouais.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
Vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre. Donc Mahatma Gandhi, il y en a une autre de Gandhi très célèbre, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc quel est ce changement que tu souhaiterais voir dans le monde? Et comment est-ce que tu essayes de l'incarner dans ton quotidien?
Je crois que j'aimerais vraiment faire l'expérience d'un monde où la peur est abolie, quoi. En fait, c'est vraiment comme si là je me projette, je sais pas quand est-ce que ça se passerait, mais ce serait peut-être dans 3 milliards d'années, ou ça se trouve c'est dans 10 minutes, mais un monde où, ouais, où tous les êtres vivants sur Terre puissent trouver leur place dans la symphonie universelle sans fausse note, quoi. Mais bon, c'est un idéal, je sais que, on disait ça aussi, cette idée que notre idéal, c'est l'horizon, et à chaque fois, on marche vers cet idéal, et l'horizon, en fait, on ne l'atteint jamais vraiment, il continue de s'écarter de nous. Et en même temps, ça crée un moteur pour avancer. Donc, voilà, mon moteur, c'est l'envie d'être actrice de paix, en fait, dans ce monde. Et j'ai vraiment envie de pouvoir m'élever et choisir à quoi je contribue dans cette vie. Donc ça, c'est important pour moi. Donc ça veut dire que je boycotte complètement les supermarchés, que ça veut dire que j'achète que dans les magasins bio, alors que c'est tout ça est forcément critiquable aussi, hein. Mais j'ai besoin de faire des choix et j'ai besoin de sentir que ces choix, dans une certaine mesure, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvelle information, en tout cas, j'ai le sentiment que ces choix me permettent de contribuer à l'avenir que je veux voir se créer, quoi.
Ici, à Utopia, est-ce que vous avez une forme de spiritualité, ou quel est le lien de vos vies ou de ta vie avec le spirituel? Et comment est-ce que tu définirais le spirituel?
Alors, je ne pense pas que ce soit forcément un élément qui nous lie tous ensemble. Ça ne fait pas partie de notre vision de groupe, même si c'est très présent sous différentes formes pour chacun d'entre nous. Mais c'est pas quelque chose qui est unanime dans le groupe, ce qui me plaît aussi parce que ça veut dire diversité de croyances aussi. Pour moi, la spiritualité, c'est la capacité à être dans la gratitude, donc à éprouver de la gratitude et de voilà. Donc c'est une forme d'acceptation, c'est pas de la résignation, mais c'est savoir saisir ce qui t'est offert à chaque instant. Et je crois que pour moi, c'est vraiment un raccourci vers le bonheur, voire peut-être le seul chemin vers le bonheur. Mais pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est dans cette capacité d'accueil et de contemplation. Ouais. Donc moi, la façon dont je le vis au quotidien, je trouve qu'en fait, quand on vit dans un groupe et qu'on cherche à être dans l'empathie, la compassion, forcément, c'est teinté de spiritualité, même juste dans le concret. Donc en fait, il y a beaucoup de choses dans la vie concrète. Concrète, ce que je veux dire par là, c'est pas forcément... qui va pas forcément être vécu très émotionnellement, il y a quand même une dimension spirituelle. Ne serait-ce que d'être en lien avec d'autres formes de vie et d'en prendre conscience, c'est déjà être en reliance. Donc moi, c'est comme ça que je le vis. J'ai l'impression que pour moi, le sens de la vie, c'est plus... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui me touchent, c'est plus la place de l'être humain dans le monde et comment on arrive à trouver notre juste interaction avec le monde vivant, comment on arrive à être créatif, à générer des choses dans le monde tout en participant à l'équilibre de vie-mort-vie dans le système vivant. Je sais pas si c'était très clair, mais parce que je dirais pas que j'ai pas envie de dire qu'on ne soit plus destructeur, parce que c'est pas du tout logique, mais pour moi, c'est plus aider à ça, en fait. C'est ça, c'est le sens de ma vie. Et j'ai le sentiment que quand je suis ancrée, quand je suis... quand j'éprouve de la gratitude, quand je suis dans un mode de vie empreint de compassion, d'écoute, de réception et aussi de réalisation, d'affirmation de ma présence sur Terre, j'ai l'impression que les choses se mettent en place. En fait, j'ai plus vraiment d'efforts à faire. Les choses se présentent de façon assez spontanée. Et c'est des moments où quelque part, intuitivement, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place et ma juste façon d'être et d'interagir sans surmentaliser tout ce que je fais, sans me sentir coupable dès que je prends la voiture ou des choses comme ça. Donc c'est, je pense que c'est presque un placement intérieur qui fait que à la fois j'ai cette envie de transmettre et d'être dans l'échange sur ces questions et d'aider à ce que tous ensemble on arrive à quelque chose comme ça, quel que soit ce comme ça pour chacun d'entre nous. Et en même temps, en parallèle, j'ai le sentiment d'en faire l'expérience moi toute seule, quoi, dans ma vie.
Je reviens quelques mois, quelques années en arrière, quand tu t'es lancé dans ce tour, quand tu as commencé à faire du woofing, où tu étais en quête, en recherche d'un lieu. Comment tu l'imaginais, ce lieu-là, avant d'arriver ici? Quelle était l'image de ton lieu idéal?
Mon lieu idéal, c'était vraiment personnellement, c'était pas forcément c'était pas un consensus. Avec mon compagnon. Et moi, mon lieu idéal, c'était dans les Cévennes, donc plutôt paysage lunaire rocailleux, sec, ou bien très forestier, mais plutôt ambiance ermite dans les bois, quoi. Et un endroit où le téléphone passe pas. En général, je me sens bien dans les endroits où le téléphone passe pas, pas vraiment parce que je suis sensible aux ondes, mais juste parce que ça veut dire quelque chose du lieu, en fait. C'est un endroit qui est plus proche du sauvage ou du moins qui est moins civilisé. Et ça, c'était mon idéal, mais c'était mon idéal rêvé, quoi. Je pense que je suis vraiment un animal collectif, quoi. Je suis vraiment bien dans le collectif et donc je suis bien ici. Mais c'est vrai qu'à la base, dans mes rêves, c'était plus, je pense aussi, faut comprendre le contexte quand t'as grandi pendant 20 ans à Paris et que tu t'es toujours un peu trouvé vilain petit canard, genre pourquoi je suis atterri ici? Du coup le contraste veut que tu ailles au-dessus d'une montagne là, où personne ne te trouvera, et puis même s'ils voulaient t'appeler, ils pourraient pas, mais aujourd'hui je pense que ça s'est équilibré.
Donc finalement t'as choisi la voie du milieu.
Ouais, voilà, c'est ça, la voie du milieu. C'est ça.
Merci.
La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.